Marguerite Azoulay.
Bonjour Didier, comment ça va?
Moi ça va le moins mal possible, comme je dis toujours. Et puis nous allons, si vous le voulez bien, parler aujourd'hui de Shavuot. Et si je ne me trompe pas, c'est bien la première fois dans Une Chanson, Une Histoire que vous nous racontez l'histoire d'une chanson liée à la fête de Shavuot.
Ben oui Didier, et savez-vous pourquoi?
Absolument non.
Parce que Shavuot tombe presque toujours pendant la période de l'Eurovision. Et l'année dernière, j'ai donc parlé d'Eurovision avec Hurricane de Eden Golan. Avant ça, j'avais parlé de Chai de Ofra Chaza.
Ben donc cette année, on ne parle pas de l'Eurovision.
Ah bien si, quand même. Cette fois, j'ai voulu présenter en fait l'un des plus grands classiques de la fête de Shavuot à la demande de mon amie Anne de Potter, à qui je dédie cette chronique. Mais en préparant cette émission, j'ai découvert qu'un lien assez inattendu reliait cette chanson à l'Eurovision.
Ah bah, je suis curieux d'entendre comment un chant de Shavuot peut être relié à l'Eurovision.
Eh ben, écoutons d'abord un extrait de Shibboleth Bassadeh, qui signifie « les épis dans les champs ». Voici l'une des plus anciennes versions que j'ai trouvées, enregistrée en 1953.
Shibboleth Bassadeh korea baruach me'omes garinim kiram ובמרחב הרים יום כבר יפוח השמש כתר וזב אורו אוי הורו שורו בין הכפרים כמה אין בשלה כבר על פני הקרים גזרו שלחו מגל את ראשית הקציר.
Vous avez sûrement déjà dansé sur cette chanson lorsque vous étiez au mouvement jeunesse ou bien pendant les Rico Dei Am.
Ah non, moi non, je suis aussi doué en danse qu'en parapente, alors non.
Mais vous avez entendu la chanson pendant que les autres dansaient.
C'est pas faux.
Parce qu'il s'agit quand même là de l'une des danses folkloriques les plus populaires qui s'appelle aussi Rikud Hakotsrim, c'est-à-dire la danse des moissonneurs. La chanson est écrite et composée en 1945 dans un kibbutz par Matityahu Shelem. Il est né en 1904 en Galicie, et qui était à l'époque l'Empire austro-hongrois, et il grandit dans une famille qui parle déjà l'hébreu au quotidien, chose assez rare à une époque où la plupart des juifs d'Europe orientale parlaient bien sûr le yiddish. Et cette place accordée à l'hébreu était caractéristique de certains milieux sionistes et intellectuels qui cherchaient à faire renaître l'hébreu comme langue vivante du peuple juif.
Donc, si je vous suis bien, avant la création de l'État d'Israël, certaines familles parlaient déjà l'hébreu au quotidien.
Oui, tout à fait, mais c'était quand même exceptionnel, hein, il faut le dire. Mais c'est comme ça que, voilà, Matityahu Shelem était un très bon poète hébraïque. Il arrive en terre d'Israël en 1922 et il devient ensuite l'une des grandes figures de la culture laïque des kibboutzim. Cependant, il était profondément nourri de la Bible, de la tradition juive et surtout des anciens symboles agricoles. Afin de comprendre ce qu'était le Homer et comment est-ce qu'on le célébrait à l'époque de la Bible, Matityahu va se plonger dans le Talmud, la Mishnah et les anciennes sources sacrées. Vers 1944, il va créer toute une cérémonie consacrée au Homer. Des textes, des musiques, des mises en scène, des danses et des récitations. Il ne s'agit pas simplement d'une chanson isolée, Shibboleth Bassadeh, mais d'une véritable célébration artistique et agricole organisée dans les kibboutzim.
Donc c'était pas alors juste une chanson qu'on chantait autour d'un feu ou bien oui?
Ben non, pas du tout, c'était une véritable cérémonie collective. Des cérémonies qu'on appelait à l'époque Massechot, d'ailleurs qu'on appelle toujours comme ça et qui existe toujours, ça mêle les chants, les danses, les processions, des tableaux inspirés de la Bible, des anciennes fêtes des moissons et l'idéal des pionniers des kibboutzim.
Donc j'imagine qu'aujourd'hui on appellerait ça, et c'est dans l'air du temps, une comédie musicale.
Peut-être bien. Sauf que c'était beaucoup plus collectif. Tout le monde participait. Shibboleth Bassadeh faisait partie de cet ensemble consacré au décompte du Homer et aux premières récoltes avant de devenir ensuite une chanson populaire indépendante. Présentée pour la première fois en 1945, la cérémonie est immédiatement adoptée par les membres du kibbutz et continue ensuite à être célébrée chaque année jusqu'à ce jour d'ailleurs.
Ok, mais moi perso, je ne vois toujours pas où où est l'Eurovision là-dedans?
Ah, nous y arrivons, Didier, un peu de patience. Eh ben voilà, je vais vous raconter ceci. Quelques années plus tard, une jeune chanteuse juive italo-marocaine quitte Casablanca pour s'installer à Paris afin d'y commencer une carrière artistique. Elle s'appelle Frida Bokhara. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Frida
bien
Bokhara?
Sûr. Elle a bercé ma jeunesse, hein, je vous avoue.
Et ben voilà, donc en 1969, Frida Bokhara va représenter la France à l'Eurovision avec Un jour, un enfant.
Je ne me souviens pas du tout.
Ah ah, et ben pourtant c'était le premier prix. Et cette édition va entrer dans l'histoire parce que ce sera la seule fois où quatre pays terminent ex aequo à la première place. La France, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas vont remporter ensemble le premier prix du concours de l'Eurovision.
Ah bah dites-moi, quatre vainqueurs ex aequo, voilà qui a dû compliquer la remise des trophées.
Mais oui, sauf que, bon, à l'époque, il n'existait pas encore une règle de départage en cas d'égalité. Et donc, les quatre pays sont déclarés vainqueurs ensemble et chacun reçoit son trophée. Cet épisode pousse ensuite l'Eurovision à modifier son règlement afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Mais le plus intéressant pour nous arrive juste après, parce que sinon vous allez me demander pourquoi je parle de Frida Bokhara. Eh ben, en cette même année, elle va sortir un disque dans lequel va apparaître une autre chanson que celle de l'Eurovision qui s'appelle « Il faut te décider ». Et... pourquoi je parle quand même de ça? Parce que « Il faut te décider » de Frida Bokhara est en réalité une adaptation française de notre chanson de Shavuot, « Shibolet Bassadeh ».
Ah ben voilà le lien.
Ah ah, c'est
oui,
QFD.
Comme vous voulez.
Ce n'est pas une traduction fidèle des paroles hébraïques. Le texte français n'a pratiquement rien à voir avec l'original, mais la mélodie est bien celle composée par Matityahu Shelem. Et l'adaptation française, en fait, va être écrite par Eddy Marnay, l'un des plus grands paroliers de la chanson française du XXe siècle. Il écrira des centaines de chansons pour Édith Piaf, Charles Aznavour, Dalida, Céline Dion, etc. Son vrai nom, en fait, c'est Edmond Bakri. Et lui aussi vient d'une famille juive séfarade. C'est lui qui écrit donc la chanson gagnante de l'Eurovision de 1969 pour Frida Bokhara. Et c'est également lui qui va écrire quelques années plus tard une autre chanson victorieuse à l'Eurovision 1977, « L'oiseau et l'enfant » que tout le monde connaît, interprétée par Marie Myriam, qui demeure encore aujourd'hui la dernière chanson française à avoir remporté l'Eurovision.
Ah oui, ça c'est vrai. Et donc l'enfant est un thème intéressant et qui... qui
oui.
fait des suffrages à l'Eurovision pour le coup.
Comme un enfant au cœur de lumière.
Ah oui, alors c'est vrai que la France n'a plus remporté le premier prix depuis 1977 et depuis la semaine dernière, c'est toujours pas le cas, bien évidemment. Mais on va revenir maintenant à Frida Bokhara qui chante cette chanson « Il faut te décider ». C'était en 1969 et donc on est dans une chanson, une histoire, mais figurez-vous qu'il y a aussi une chanson, une famille, parce que Frida Bokhara, vous savez qui c'est en dehors de ça?
Racontez-moi.
C'est la tante de Liz Ben Kimoun.
Comme
quoi, vous voyez que...
Hein, ah ça alors,
on va retrouver la tante de Liz Ben Kimoun. Et je vous le dis de vous à moi. Et personne, hein, si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. Elle sait chanter, Frida Bokhara.
Ah oui.
Roland est un berger et qu'il est berger. Alors il faut aller danser. Quand vous aurez dansé une nuit entière, tu sauras bien te décider. À travers la ronde, tu verras qu'il vaut mieux que tous les rois du monde. Celui qui a plutôt des royaumes à te donner, une couronne à garder. Il faut te décider, ma jolie bergère. Je crois qu'il faut te décider.
Eh ben oui, ça c'était la partie la plus rythmique de la version de cette chanson de Frida Bokhara. Mais la danse collective des moissonneurs du kibbutz devient ici en fait une chanson française bien plus intime et mélancolique. Et pourtant, derrière cette mélodie, on retrouve toujours l'univers agricole et biblique de Shavuot. Car, comme vous le savez, avant d'être associé au don de la Torah par Moïse au mont Sinaï, la fête de Shavuot était d'abord une grande fête des moissons, liée aux récoltes. récolte, aux prémices et au cycle agricole. D'ailleurs, c'est l'une des fêtes les plus anciennes du judaïsme, mentionnée dans la Torah il y a plus de 2500 ans. Le mot hébreu « Shavua » signifie une semaine, et « Shavuot » en est le pluriel, les semaines.
Ah, j'ai bien ma petite idée, hein, parce qu'en travaillant à Judaïka, en connaissant le rabbin de Raï Chalençon et d'autres,
raconté, oui.
Voilà, mais la question se pose quand même pour ceux qui ne sont pas avertis, pourquoi une fête s'appelle-t-elle les semaines ?
Ben parce qu'elle est célébrée après 7 semaines complètes, qui sont comptées depuis Pessah, soit 49 jours. Ben, vous savez bien que les Juifs, ils aiment compter. La dernière fois, on a fait Echad Miodea, il y a toujours les chiffres qui reviennent. Mm-hmm. Et le 50e jour devient alors Shavuot. Et en grec, ça, je suis sûre que Mordechai Chalençon ni Nechama ne vous ont raconté. Parce qu'en grec, le 50e jour est appelé Pentecoste. La 50e, c'est un mot qui donnera plus tard la Pentecôte.
Ah bah sans blague, et la Pentecôte chrétienne trouve donc son origine dans la fête juive de Shavuot quelque part.
Évidemment, d'accord. Les premiers chrétiens, étant eux-mêmes des juifs, reprennent ce nom pour désigner la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus à Jérusalem. Selon le récit chrétien des Actes des Apôtres, la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus se produit pendant la fête juive de Shavuot, alors que Jérusalem est remplie de pèlerins juifs venus de tout le bassin méditerranéen. Pour les premiers chrétiens, la Pentecôte devient donc en quelque sorte un nouveau Sinaï. Et donc, pour revenir à la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70 de l'ère chrétienne, les juifs ne pouvaient plus célébrer concrètement les anciennes fêtes agricoles liées aux récoltes de la terre d'Israël, parce qu'ils sont exilés de leur propre terre, par les Grecs puis par les Romains. Et le temple, qui se trouvait au centre des célébrations, n'existe plus. Alors les offrandes deviennent désormais impossibles. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, le judaïsme va transformer certaines fêtes afin de leur donner un sens pouvant être vécu partout dans le monde, même loin de la terre d'Israël. Les sages du Talmud vont jouer ici un rôle essentiel. Ils vont observer que, selon le livre de l'Exode, les Hébreux arrivent au mont Sinaï environ 50 jours après la sortie d'Égypte, exactement comme Shavuot tombe 50 jours après Pessah. Ils établissent alors un lien entre les deux fêtes. Pessah devient la fête de la libération physique de l'esclavage en Égypte, tandis que Shavuot représentera l'aboutissement spirituel de cette liberté, puisqu'ils ont reçu à ce moment-là le don de la Torah. Peu à peu, Shavuot va cesser d'être seulement une fête des moissons pour devenir aussi la fête de l'alliance et de la révélation divine au Sinaï. Les rabbins opèrent alors une immense transformation qui permettra à la vie juive de survivre, même en diaspora. Les sacrifices deviennent prières. Le temple va laisser la place aux synagogues et les anciennes fêtes agricoles prennent progressivement une dimension plus spirituelle et intellectuelle. La terre devient texte et l'agriculture devient étude.
Et voilà que près de 2000 ans plus tard, un mouvement inverse apparemment apparaît.
Eh oui, après 2000 ans d'exil, le mouvement pionnier sioniste cherche à renouer avec la terre et l'agriculture et les saisons bibliques. Dans les premiers kibboutzim du début du XXe siècle, naissent alors de nouvelles cérémonies dans ces chansons inspirées des anciennes fêtes des moissons. Shibboleth Bassadeh devient ainsi le symbole de cette renaissance culturelle. Cette entreprise de renouveau, profondément laïque mais nourrie de la Bible et de mémoire juive, trouve de nombreuses expressions dans la chanson hébraïque. Pendant plusieurs décennies, les chansons israéliennes célèbrent les champs, les troupeaux, les récoltes, les sources d'eau, les moissonneurs et les saisons. Mais de nos jours, l'agriculture et le travail de la terre ont perdu progressivement tout leur prestige.
Ah bon, vous trouvez, vous ?
Ah, malheureusement, oui. Bah, on n'en parle pas beaucoup. Vous connaissez beaucoup de chansons écrites sur l'agriculture ?
Non, sur l'agriculture, non. Mais l'agriculture, en tant que telle, elle a toujours le vent.
Les manifestants, surtout. Et ils ont raison.
Absolument.
Et avec eux vont disparaître surtout justement les chansons pionnières, les danses folkloriques et les cérémonies composées en leur honneur. On n'écrit plus de chansons justement sur les moissons et les sillons fraîchement labourés. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de vrai remplacement qui a émergé à cela. Personne ne va composer des danses folkloriques pour célébrer des start-up ou des nouvelles applications mobiles. Est-ce que vous avez entendu parler d'une Hora pour Waze ou d'une Debka pour Mobileye? Une farandole pour les smartphones?
Non, bah pas, alors, franchement. Pas franchement.
Bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, la nostalgie.
Ouais, c'est vrai. Et pourtant, malgré la disparition progressive de ce monde pionnier, quelque chose continue à vivre dans ces chansons. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais bien sûr, le texte, par exemple, de Chibolet Bassadé décrit merveilleusement les jours du printemps en terre d'Israël. Voici le début. Les épis dans les champs se prosternent sous le vent, courbés par le poids des grains abondants. Sur l'étendue des montagnes, le jour souffle déjà et le soleil doré brille de tous ses éclats. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous. Voyez, gens de nos villages, les blés sont déjà mûrs sur les plaines des pâturages. Moissonnez, lancez la faucille, voici venu le temps du ramassage. Tout cela dégage un parfum biblique, presque comme une scène sortie du livre de Ruth, que l'on lit traditionnellement pendant la fête de Shavuot. L'histoire de Ruth se déroule justement au temps des moissons, dans les champs de blé de Judée. Ruth, une jeune femme moabite, devenue veuve, décide de quitter son pays natal pour suivre sa belle-mère Naomi jusqu'en Judée. Elle est pauvre et étrangère et elle va glaner les épis laissés derrière eux par les moissonneurs dans les champs d'un riche propriétaire nommé Boaz. Lui, il va être touché par la dignité et la fidélité de Ruth envers sa belle-mère et il finira par l'épouser. Et de leur union va naître Oved, qui lui est le père de Jessé et qui est le grand-père du roi David. Ruth deviendra ainsi l'une des grandes figures féminines de la Bible, puisqu'elle sera l'arrière-grand-mère de notre roi David. Le livre de Ruth est lu pendant Shavuot. D'abord parce que toute l'histoire se déroule dans l'univers agricole des moissons, et ensuite parce que Ruth choisit librement de rejoindre le peuple juif et d'adopter sa foi. Lorsqu'elle décide d'accompagner Naomi en Judée, elle prononcera cette célèbre phrase « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». La tradition juive a vu dans ces paroles une forme d'acceptation volontaire de la Torah et de l'attachement profond au peuple juif. Ruth est considérée alors comme le grand modèle de la convertie au judaïsme. Enfin, selon la tradition, le roi David, descendant de Ruth, serait né et mort le jour de Shavuot. Et ce qui a encore renforcé le lien entre cette fête et le livre de Ruth. Dans la poésie hébraïque des chants agricoles, la terre et les champs sont souvent représentés comme des figures féminines, symboles de fertilité, d'abondance et de vie. Notamment, bien que le mot hébreu sadeh, le champ, soit naturellement, normalement masculin, le poème va le traiter ici au féminin comme une figure presque vivante et maternelle.
Alors finalement, derrière cette simple chanson de moissonneur, c'est toute une mémoire du peuple juif qui ressurgit.
Eh ben oui, une mémoire, la mémoire de la terre, la mémoire des récoltes, des kibboutzim, et surtout de la renaissance de la langue hébraïque, mais peut-être aussi d'un monde disparu dont ces chansons continuent à porter la nostalgie.
Ah bien, merci beaucoup Irit pour toutes ces explications. On apprend tellement de choses avec vous, grâce à vous. Merci infiniment et ce n'est pas de la science infuse. Hein, c'est le résultat et le fruit de beaucoup de recherches
oui,
et de beaucoup de travail. Merci à vous et on va terminer, bien sûr, c'est une chanson, une histoire avec cette chanson, Chibolet Bassadé, interprétée par Ran et Nama. J'allais dire Ranana, mais rien à voir. Et donc, on va écouter donc cette chanson. Et puis, moi, j'ai appris plein de choses hein, sur Shavuot, mais j'ai aussi appris que Frida Bokhara était la tante de Liz Ben-Kemoun.
Ça, c'est moi et, aussi, je l'ai appris.
Et vous savez quoi? Moi, ma chanson préférée de Frida Bokhara, c'était Trop jeune ou trop vieux, que j'ai adoré, qui a bercé mon enfance. Et Liz Ben-Kemoun, j'imagine que c'est la fameuse chanson Les Moulins de mon cœur qu'on écoutera juste à la fin de cette matinale. Bah, une chanson qui a fait le tour du monde. Hein. En tout cas, la musique.
Non, elle était très connue. Beaucoup de gens connaissent sans savoir que c'est elle.
Ah ben voilà, eh bien, c'était effectivement une chouette voix. Merci beaucoup.
Et Chag Sameach.
Et je rappelle que la chanson, une histoire aujourd'hui, pour la fête de Shavuot, c'est Chibolet Bassadé. Et on retrouve Ran et Nama.
Chibolet Bassadé, Korah Barouah, Neomé.
ארץ גרים נמכירה, ובמרחב הרים יום כבר יפוח, השמש קדם וזהב. אורו, אוי אורו, שורו בין הכפרים, קם בהם בשלה כבר, ארפי הקרים קצרו, שילחו מגלבו.
את ראשית הקציר,
הקציר, את ראשית הקציר. Desse orin kama zerha otere shefa yevul uvraha Likrat bo hakotzi bezohar mazheret Cheresh la omer mechaka Amu hanifu
niru lachem nir hadla kama
Et reishir hakatzir kitro shilfu magalbu
Et reishir hakatzir
hakatzir שימול ללבסנה קורא ברומה באומץ גרים נמכינם ובמרחב הרים יום כבר יפוח השמש קדם בזהב אורו, אוי אורו
שורו בין הכפרים כמה הם בשלה כבר
חמה והקרים כזרו שילבו מגלבו
את ראשית הקציר
את ראשית הקציר
את ראשית
הקציר